I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Soyez les bienvenus dans l'édition de la nuit, je suis très heureux de vous retrouver. Voici les titres de votre journal. Un jeune homme de 16 ans, radicalisé, placé en garde à vue. Il avait pour projet de commettre un attentat à la Défense pendant les Jeux Olympiques de Paris. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête. Les précisions de Sandra Buisson du service police-justice dans un instant. Kenji Girac a enfin été entendu par les enquêteurs. Le chanteur a maintenu sa version des faits, celle d'un tir accidentel, sans l'intervention d'une autre personne. Le procureur de la République doit tenir une conférence de presse ce jeudi à 15h. Nos envoyés spéciaux sont toujours sur place à Pessac en Gironde. L'émotion à Grande-Synthe dans le Nord ce mercredi après-midi. Près de 500 personnes ont assisté aux obsèques de Philippe Kaufmann. Ce jeune homme de 22 ans, tabassé à mort, c'était le 16 avril dernier. Aujourd'hui, l'enquête se poursuit. Un troisième mineur a été mis en examen pour meurtre avec guet-apens. Et enfin, à l'approche des Jeux Olympiques, les épreuves pourront-elles se tenir dans la Seine? En tout cas, Anne Hidalgo l'assure. Il sera possible de plonger dans la Seine dès la fin du mois de juin. Une bonne nouvelle donc, alors que la qualité de l'eau pose question à l'approche de cet événement. Un mineur de 16 ans suspecté de projeter un attentat a donc été interpellé et placé en garde à vue. L'adolescent a reconnu avoir eu pour projet de commettre un attentat à la Défense pendant les Jeux Olympiques de Paris. Et lors de la perquisition au domicile de ses parents, et bien différents manuscrits dont une déclaration d'allégeance à l'État islamique ont été découverts. Le parquet national antiterroriste a donc ouvert une enquête. Tout ce qu'il faut savoir sur cette affaire, c'est avec Sandra Buisson du service police-justice de CNews.
Un mineur de 16 ans, suivi pour radicalisation, a été arrêté cette semaine chez lui en Haute-Savoie, à Marigné. Il a été placé en garde à vue, notamment pour association de malfaiteurs terroristes criminels. L'alerte est venue de propos tenus sur une chaîne Telegram. Il est suspecté d'avoir dit sur ce réseau qu'il voulait fabriquer une ceinture explosive pour mourir en martyr au nom du califat islamique. En perquisition, les enquêteurs ont notamment découvert une déclaration d'allégeance à l'organisation terroriste État islamique. Et en audition devant les policiers, il a expliqué qu'il projetait de commettre un attentat suicide à la Défense pendant les Jeux Olympiques. Selon ses déclarations, il voulait passer à l'acte avec une ceinture explosive ou un fusil. Mais au vu de sa personnalité, l'enquête devra déterminer si ce projet terroriste était bien réel et si oui, s'il était déjà avancé ou non. Le parquet antiterroriste s'est saisi et les investigations sont confiée à la DGSI.
La sécurité, principale préoccupation du gouvernement à moins de 100 jours maintenant des Jeux Olympiques. Et face à la menace terroriste maximale sur notre territoire, l'exécutif prévoit forcément un dispositif de sécurité très conséquent. Mais le personnel manque à l'approche de l'événement. Une formation express au métier de la sécurité a donc été ouverte récemment. On va faire le point avec Alice Sommerer, regardez.
Si l'organisation des JO s'appuyait sur le renfort des membres de sécurité privée pour assurer le bon déroulement des épreuves, le manque d'effectifs semble inévitable.
Du point de vue sécuritaire, l'ensemble des JO va être un cauchemar. Le comité d'organisation, le COJOP, est encore en train de recruter 10 000 personnes, pas seulement des agents de sécurité d'ailleurs, mais 10 000 personnes à moins de 100 jours. Donc des gens qui sont recrutés quand même un peu à la va-vite et qui ne pourront pas faire l'objet de contrôles de sécurité.
Si les membres du secteur privé ne suffisent pas, tous les secteurs en mesure d'assurer ces postes seront mobilisés. Une décision qui ne fait pas l'unanimité.
Il est évident que si on doit se substituer à ces agents de sécurité privés, il y aura des endroits où peut-être qu'il y avait davantage de policiers prévus. Dans ces endroits-là, il y en aura moins. C'est une logique mathématique. Donc il va falloir qu'ils dispatchent de manière un peu plus importante les effectifs de police si on doit se substituer à ces missions de sécurité privée.
Le gouvernement a mis en place une formation express au métier de la sécurité ouverte à tous, offrant un total de 25 000 places.
On va prendre la direction des Alpes-Maritimes. Dans ce journal, une tuerie de masse a été évitée dans un lycée à Antibes. Un jeune homme de 16 ans a été arrêté à la sortie de l'hôpital psychiatrique où il était interné. C'est son pédopsychiatre qui a donné l'alerte aux autorités sur ses intentions. Une perquisition menée chez le jeune homme a permis de retrouver des armes blanches, un gilet pare-balles ainsi que des croix gammées sur les murs. Autre grand titre de l'actualité, Kenji Girac a donc été entendu par les enquêteurs à l'hôpital de Pessac ce mercredi. Le chanteur a maintenu sa version des faits, celle d'un tir accidentel sans l'intervention d'une autre personne. Le procureur de la République doit tenir une conférence de presse ce jeudi à 15h. Les derniers éléments de cette enquête avec nos envoyés spéciaux sur place, Augustin Donadieu, Florian Pau.
Kenji Girac aura donc maintenu sa version devant les enquêteurs. Plus de 2 heures d'audition durant lesquelles Kenji Girac aura de nouveau répété qu'il était seul à avoir manipulé cette arme et qu'il a tiré accidentellement, un scénario corroboré par les auditions de sa compagne et de ses oncles les jours précédents. Fait nouveau ce mercredi, on a appris que le tir de l'arme à feu a bel et bien eu lieu dans la caravane de l'artiste. Alors il y avait à l'intérieur évidemment Kenji Girac, mais également sa compagne et sa petite fille de 3 ans. À présent, les enquêteurs vont tenter de savoir qui tenait cette arme, qui a appuyé sur la détente. Pour cela, ils vont analyser les vêtements des protagonistes pour tenter de retrouver des traces de poudre. En attendant, la famille fait bloc derrière l'artiste. Ils étaient plus d'une cinquantaine à l'hôpital de Haut-l'Évêque, au sud-ouest de la capitale girondine, pour soutenir Kenji Girac qui reste hospitalisé.
L'émotion à Grande-Synthe dans le Nord ce mercredi après-midi. Près de 500 personnes ont assisté aux obsèques de Philippe Kopmann. Ce jeune homme de 22 ans, tabassé à mort, c'était le 16 avril dernier. Sur place, sa famille, des proches ou encore des habitants qui ont tenu à être présents. Maxime Leguay et Fabrice Elsner ont assisté aux funérailles du jeune Philippe pour CNews.
C'est une ville encore sous le choc et meurtrie qui a rendu hommage à Philippe, 22 ans, lui qui a été victime d'un guet-apens mortel, une agression d'une violence inouïe qui l'a plongé dans le coma avant qu'il ne succombe à ses blessures. Alors après la sidération et l'effroi, l'heure était désormais au recueillement ici à Grande-Synthe, dans cette église Saint-Jacques où se sont déroulés les obsèques. Ils étaient nombreux, les habitants de Grande-Synthe, à venir pour soutenir la famille de Philippe. Ils ont témoigné à notre micro. Je vous propose de les écouter.
C'est un enfant de Grande-Synthe. C'est notre enfant, notre fils, notre frère. Et puis les circonstances, c'est tellement dramatique, injuste.
C'est un petit jeune que je ne côtoyais pas, hein, mais ça fait partie de notre ville.
C'était une très très belle cérémonie. Il y a eu une partie de la famille qui a parlé.
On a tous lâché notre larme, même si je ne connaissais pas Philippe. Voilà, c'était émouvant. Maintenant, j'aurais préféré être ailleurs que là, en fait.
À la fin de la messe funéraire, le cercueil a été transporté par le corbillard en direction du cimetière communal où Philippe peut désormais reposer en paix.
Et aujourd'hui, l'enquête se poursuit. Un troisième mineur a été mis en examen pour meurtre avec guet-apens. Je vous propose d'écouter ce témoignage à présent, celui de la mère d'un des mineurs soupçonné d'avoir tué Philippe Kopmann.
Je suis pas du tout responsable parce que quand il était à la maison, en fait, ça veut dire en gros... Soit il a attendu que je dormais pour partir, je lui ai fait confiance, je lui ai dit « Toi, c'est bizarre que t'es rentré si tard. » Il me dit « Non, maman, je te jure, je suis la preuve, je suis là. » Mais bon, si vraiment mon fils est dedans, que je pensais qu'il n'était pas de base, mais vu la police qu'il le prenne, il ne faut pas non plus se voiler la face qu'effectivement, il doit être dedans. Je me demande si j'ai loupé quelque chose sur son éducation, quoi. Parce que de base, ils sont tous éduqués à la même valeur. Je comprends pas. Ce qu'il a dit le Premier ministre là, pour le couvre-feu, eh ben, je trouve ça normal. Ok, peut-être mon enfant s'est retrouvé dehors à cette heure-là, mais on n'est pas derrière eux tout le temps, vous voyez. Nous, on leur dit de ne pas sortir, qu'il est interdit de sortir, que de base, la nuit, c'est fait pour dormir, c'est fait pour rester à la maison, c'est pas fait pour traîner dehors. Faire quoi dehors, la nuit?
Dans le reste de l'actualité, cette nuit à Paris, un couple a été victime d'un homejacking estimé à plus de 700 000 euros. Ça s'est passé dans le chic 8e arrondissement de la capitale. Les voleurs ont directement sonné à la porte de l'appartement et quand les victimes ont ouvert, eh bien, ils les ont frappés et menacés avec un couteau. 4 personnes ont été interpellées. Le récit de Godéric Bey.
Sur cette avenue du 8e arrondissement de Paris, un nouveau homejacking. Une fois de plus, les malfaiteurs ont agi par la ruse. Lundi matin, plusieurs individus se sont fait passer pour des agents de la poste. Ils ont sonné à la porte d'un appartement et ont violenté le couple qui leur a ouvert en les menaçant avec un couteau. Le préjudice du vol est estimé entre 700 et 800 000 euros. En plus des vêtements de luxe et des bijoux, les voleurs ont dérobé deux téléphones, ce qui a permis aux policiers de les géolocaliser. Quatre suspects ont par la suite été interpellés, dont deux assurent avoir 18 ans. La maire du 8e arrondissement inquiète de ce phénomène de plus en plus courant, met en garde ses administrés.
Heureusement que les victimes n'ont pas été hospitalisées et à chaque année, on rappelle donc à nos concitoyens qu'il faut impérativement être vigilant et surtout ne pas ouvrir.
Une enquête est en cours pour déterminer le processus de ciblage des cambrioleurs.
François Fillon, reconnu coupable dans l'affaire des emplois fictifs de son épouse. La Cour de cassation a toutefois ordonné un nouveau procès concernant les peines prononcées à son encontre. Une nouvelle audience se tiendra donc dans les prochains jours devant la Cour d'appel de Paris. François Fillon a été condamné le 9 mai 2022 à 4 ans d'emprisonnement, dont un an ferme, 375 000 euros d'amende et 10 ans d'inéligibilité. Les détails, c'est avec Noémie Schulz du service police-justice.
La Cour de cassation donne en partie raison à François Fillon et en partie tort. D'abord, elle confirme la culpabilité de l'ancien Premier ministre, de son épouse et de son suppléant. Tous sont donc définitivement condamnés pour détournement de fonds publics par personne chargée de mission de service public et complicité de cette infraction. En revanche, la Cour casse partiellement la décision de la Cour d'appel de Paris qui avait condamné François Fillon à 4 ans de prison, dont un an ferme, une peine qui aurait pu être aménagée avec le port d'un bracelet électronique. Là, la Cour de cassation rappelle que la prison sans sursis ne peut être prononcée que si la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et si toute autre sanction est inadéquate. Ça ne semble pas être le cas ici, ou en tout cas, le juge ne l'a pas suffisamment motivé. La peine de François Fillon n'est donc pas validée. Enfin, la Cour de cassation conteste le montant des indemnités que les époux Fillon avaient été condamnés à payer à l'Assemblée nationale, 800 000 euros, la totalité des salaires versés, une somme excessive. Donc, concrètement, il y aura bien un troisième procès, mais pas sur le fond de l'affaire. La culpabilité de l'ancien Premier ministre est définitive. Le procès, qui durera très peu de temps, portera uniquement sur le quantum de la peine de François Fillon et sur le montant des indemnités à payer à l'Assemblée nationale.
Malgré la levée d'un préavis de grève des contrôleurs aériens, des dizaines de milliers de passagers seront privés d'avion ce jeudi en France. Le délai étant trop court pour reprogrammer les vols qui ont déjà été annulés par les compagnies. 75% des vols seront annulés à Orly et 55% à Roissy-Charles de Gaulle. D'autres aéroports français, dont celui de Marseille, seront également impactés. Cette question, le gouvernement a-t-il acheté la paix sociale avec les agents de la SNCF à l'approche des Jeux Olympiques? C'est en tout cas l'avis de l'opposition. Un accord sur les fins de carrière des cheminots a été signé lundi. Et vous allez le voir, le texte est particulièrement avantageux. Maxime Lavandier.
C'est un accord que les quatre principaux syndicats ont signé, y compris la CGT Cheminots et Sudrail. Il prévoit pour les salariés de l'entreprise une cessation anticipée de leur activité avant le départ à la retraite, scindée en deux périodes. Une première où le salarié travaille et sera payé à 100%, puis une autre où il ne travaillera plus mais qui restera payé à 75% par l'entreprise. Les cheminots bénéficieront de ce dispositif pendant 18 mois. Pour les aiguilleurs ou conducteurs considérés comme des métiers pénibles, il pourra s'étendre à 30 mois et même jusqu'à 36 mois pour les contrôleurs. Pour Éric Meyer, secrétaire général de Sudrail, l'objectif est de contourner la réforme des retraites.
L'accord permet de compenser en partie les effets néfastes de la réforme des retraites.
Un dispositif donc très avantageux qui réduit un peu plus leur départ à la retraite prévu à 59 ans par la réforme de 2023. Ce nouveau dispositif effectif au 1er janvier pourrait donner des idées à d'autres. Même si les contrôleurs aériens ont levé leur préavis pour demain, la menace d'une grève pour le pont de l'Ascension plane toujours.
Plan social d'ampleur chez Casino, puisque l'enseigne prévoit de réduire fortement ses effectifs. Le projet de réorganisation présenté ce mercredi prévoit la suppression de près de 1300 postes. Il s'agit du plus grand plan social depuis le début de l'année en France. À moins de 100 jours des Jeux Olympiques, cette question, les épreuves pourront-elles se tenir dans la Seine? En tout cas, Anne Hidalgo l'assure, la baignade sera possible dès la fin du mois de juin. Pourtant, vous le savez, la qualité de l'eau pose question à l'approche de cet événement. Marco Maricic.
Encore quelques semaines de patience avant de pouvoir se baigner dans la Seine. Illusion pour certains, ce devrait pourtant être rendu possible dès la fin du mois de juin, à en croire la maire de Paris.
Il va y avoir ce grand plongeon dans la Seine que nous sommes en train de travailler sur une fenêtre qui sera autour du 23 juin ou la semaine suivante et qui nous permettra de venir goûter l'eau de la Seine, nager dans la Seine et qui sera un événement, je dirais, culturel tout autant que sportif. Avec sa grande portée symbolique.
Des tests grandeur nature un mois avant les épreuves olympiques, alors que de nombreux doutes demeurent quant à la qualité de l'eau.
Et enfin, juste avant votre journal des sports, Emmanuel Macron a marqué ce mercredi le président de la République disputé à plaisir dans les Yvelines. Un match caritatif pour l'opération Pièce jaune qui est dirigée par sa femme Brigitte Macron. Entouré de grandes stars du foot, le chef de l'État a inscrit un pénalty. On va le regarder ensemble. Et ça nous fait donc une belle transition pour votre journal des sports. Et on commence ce journal des sports avec la Ligue 1 et le Paris Saint-Germain ce mercredi en match en retard de la 29e journée. Le PSG a très facilement dominé Lorient 4-1. Kylian Mbappé a inscrit un doublé et délivré une magnifique passe décisive à Ousmane Dembélé. Paris devra cependant patienter encore un tout petit peu pour célébrer son 12e titre de champion de France. La faute à Monaco, vainqueur de Lille 1-0 ce mercredi soir. Il y avait un autre match en retard ce mercredi, Marseille face à Nice. Les deux équipes se sont neutralisées 2-2 au stade Vélodrome. Un match marqué par de nombreux rebondissements et des décisions arbitrales controversées. Nice 5e dit donc définitivement adieu à la Ligue des Champions. Marseille reste 8e et pour l'instant sans Coupe d'Europe pour l'année prochaine. Allez, football toujours, on passe maintenant à la Première Ligue dans ce journal des sports et la course au titre. Ce jeudi, Liverpool a peut-être abandonné tout espoir de sacre, puisque les Reds se sont inclinés 2-0 face à Everton. Les hommes de Jürgen Klopp comptent 3 points de retard sur Arsenal, le leader en Première Ligue. Le récit de cette soirée, Raphaël Redon.
Ce 244e derby de la Mersey n'est pas le plus équilibré sur le papier, mais tellement d'enjeux peuvent le rendre passionnant. Les rêves de titre pour les Reds, la peur du vide pour les Toffees et le dernier Liverpool-Everton d'un certain Jürgen Klopp. Sur une ouverture d'Alexander Arnold, Mo Salah est proche d'entrer de refroidir Goodison Park, mais retour salvateur de Ben Godfrey. Puis c'est au tour d'Alisson, vigilant, de sauver les siens sur cette tête de Calvert-Lewin. Les Reds se mettent à subir et perdent pied.
Oh, c'est dévissé! Et Brandt-Sweit! Est-ce que c'est Calvert-Lewin ou Brandt-Sweit qui a marqué? En tout cas, c'est Everton qui est allé au bout de ses intentions.
C'est bien Brandt-Sweit qui permet aux Toffees d'enflammer ce derby et de mener 1-0 à la pause. Liverpool est dos au mur, agacé, et ne parvient pas à prendre la mesure de l'événement. Cela tourne au cauchemar à la reprise.
Là, c'est Calvert-Lewin qui est visé. Et Dominic Calvert-Lewin qui envoie Goodison Park au paradis.
Et par ricochet, les Reds en enfer, à qui rien ne réussit, à l'image du poteau trouvé par Luis Diaz. Les prières des supporters de Goodison Park se concrétisent. 2-0, coup de tonnerre sur la Mersey. 14 ans qu'Everton n'avait pas battu son rival dans son stade. Ce succès assure quasiment le maintien des Toffees et enterre presque l'ambition de titre de Liverpool.
Et on termine ce journal des sports avec du tennis et on va parler de Rafael Nadal. Ce jeudi, l'ancien numéro 1 mondial disputera son premier match au tournoi de Madrid. Ça sera contre Darwin Blanche. Pour Nadal, ce tournoi doit confirmer une montée en puissance ou mettre sérieusement en doute sa participation à Roland-Garros. Raphaël Redon le récit.
Il y a une semaine, Raphaël Nadal se disait prêt à mourir pour jouer à Roland-Garros. Mais comme depuis 2 saisons, le corps de l'Espagnol a ses raisons que la raison ignore.
De verdad, no voy a jugar París, c'est como estoy hoy. Si hoy fuera París, yo no salgo a la pista. ¿Sabes? Mañana, esta es la realidad.
La terre de Porte d'Auteuil en tremble déjà d'imaginer une seconde l'absence de Rafa pour sa probable dernière saison sur le circuit. L'homme au 22 grand chelem joue à la fois pour dire adieu, comme à Barcelone il y a une semaine, mais aussi avec l'espoir de survivre.
The goal is be on court, enjoy as long as possible to finish the tournament alive in terms of body issues. Yeah, I'm not here to try to create any misunderstand to anyone. That's the feeling today.
Sa présence à Madrid, où il est attendu comme jamais, peut-être lever ce malentendu.
So I am here giving myself a chance. If at some moment my situation is improved, so I am able to find better feelings in my body, I need to be ready.
Comprenez que Nadal pourrait prendre la décision d'une dernière danse à Roland-Garros uniquement si les ultimes sensations sont à la hauteur de l'événement. En attendant, il vivra à 38 ans au premier tour de Madrid, un bain de jouvence face à Darwin Blench, 16 ans. À sa naissance, Rafa avait déjà remporté 3 fois le Grand Chelem parisien.
Allez, vous restez bien avec nous sur CNews. On se retrouve dans un instant pour un prochain journal. Un jeune homme de 16 ans radicalisé a été placé en garde à vue. Il avait pour projet de commettre un attentat à la Défense pendant les Jeux Olympiques de Paris. Le parquet national antiterroriste a ouvert une enquête. Vous entendrez les précisions de Sandra Buisson du service police-justice dans notre prochain journal. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle nuit sur notre antenne et je vous retrouve donc dans un instant pour une prochaine édition.
Retrouvez tous nos programmes et plus sur cnews.fr.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.